Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Alors, je ne sais pas si c'est un super fail, mais on va s'intéresser à la croissance démographique qui poursuit son cours selon les prévisions des Nations Unies. Nous serons sur Terre 10 milliards d'habitants en 2050, alors que se déroulait ce mois-ci la COP23. 15 000 scientifiques ont signé un appel contre la dégradation catastrophique de l'environnement, affirmant que depuis le 2 août 2017, l'humanité vit à crédit, surconsommation, surpopulation. Quelle est la cause principale de cette situation? Bonjour Hervé Lebras, vous êtes démographe, directeur d'études à l'INED et directeur de recherche à l'EHESS, notamment auteur de Vie et mort de la population mondiale. Alors tout d'abord, il faut revenir sur ce chiffre de 10 milliards d'habitants pour 2050. Est-on sûr de cette prévision?
Non, mais c'est assez probable. Bon, ça sera peut-être 9 milliards 500 millions ou 9 milliards 300 millions. Ça risque d'être un peu plus faible que 10 milliards. Simplement, le chiffre ne donne pas une idée de la dynamique. Et or, la dynamique est au tassement de la croissance, et même on peut penser que la croissance globale de la population mondiale va s'arrêter vers les années 2060-2070. Pour donner deux chiffres, en 1970, le taux de croissance de la population mondiale, c'était 2% par an. Ça veut dire qu'elle doublait tous les un peu plus de 30 ans. Maintenant, c'est un peu moins de 1%. Elle double tous les 70 ans. Et donc, si on poursuit cette décroissance, on arrive à 0%. Donc, ça y est, la croissance s'arrête vers 2060.
Ce qui veut dire que l'accélération forte de la croissance, donc, de la population mondiale, elle serait aujourd'hui freinée?
Oui, elle est très largement freinée. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez une forte croissance, il y a beaucoup de jeunes. Et donc, ça va donner, même si la fécondité est faible, ça va donner pendant une génération beaucoup d'enfants. On parle d'un effet d'inertie démographique. Et pour l'instant, on est dans cette inertie démographique parce que dans la plupart des pays, la fécondité est devenue faible, voire très faible. Je peux donner beaucoup d'exemples, mais par exemple, prenez le Brésil. Brésil qui était à 5 enfants par femme il y a 20 ans et à 1,7 enfants par femme, c'est au-dessous de la France. C'est la même chose pour l'Iran. La même chose pour la Chine. L'Inde est à 2,4 enfants, l'Afrique du Sud à 2,6. Donc presque partout, si vous voulez, la fécondité a beaucoup diminué et souvent elle est maintenant au-dessous de 2 enfants, avec des paradoxes, disons, incroyables. Si vous prenez toutes les Amériques, le pays maintenant qui a la plus forte fécondité de toutes les Amériques, c'est la Guyane française, avec 3,4 enfants. Donc si la France veut faire quelque chose pour la surpopulation, elle a un terrain de choix.
Comment vous expliquer cela? Quels sont les déterminants? Qu'est-ce qui explique que l'on fasse beaucoup, peu d'enfants, Hervé Lebras?
Les déterminants, je crois, deux déterminants importants ont joué et ont été, on peut le dire, stimulés depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. C'est l'éducation des femmes et particulièrement le fait que les femmes puissent accéder à des études secondaires. Dans toutes les enquêtes, notamment les enquêtes de fécondité mondiale, on voit que si une femme a des études primaires, elle n'est pas, sa fécondité ne baisse pas beaucoup. Mais dès qu'elle est allée dans l'enseignement secondaire, la fécondité devient de l'ordre de autour de 2 enfants, un peu plus, un peu moins. C'est le premier point. Puis le second point, c'est on a insisté sur donner plus de pouvoir aux femmes. Ça a pris une allure un peu alambiquée au dernier congrès mondial de population. On a appelé ça la santé maternelle. Mais ça voulait dire que les femmes prennent plus en charge le désir de, et la réalisation des enfants, parce que les enquêtes jusqu'alors interrogeaient les hommes, et les hommes voulaient plus d'enfants que leurs femmes. Donc,
comment explique-t-on cette différence entre donc les hommes et les femmes dans leur souhait donc d'une famille nombreuse?
Ben, pour les hommes, et ça a été au fond assez bien étudié par des démographes notamment comme Jack Caldwell, qui a montré avec des enquêtes anthropologiques en Afrique que les hommes d'abord, ils espèrent, en ayant beaucoup d'enfants, il y a un aspect de prestige, mais surtout c'est la théorie du billet de loterie. C'est plus on a d'enfants, plus on a peu probabilité que l'un d'entre eux réussisse et subvienne aux besoins de la famille. Et puis l'autre aspect, mais justement qui est contré par l'éducation, c'est que les enfants étaient mis, et sont encore dans les pays les plus pauvres, mis au travail, et donc c'est un capital pour les parents.
Et à contrario, lorsqu'on décide de faire beaucoup d'enfants, alors beaucoup c'est relatif, mais il y a un lien qui est souvent fait par les journalistes entre la croissance démographique et l'optimisme. C'est un lien véritable, Hervé Le Braz ?
Alors, c'est très difficile à dire, mais pour les pays développés, il est possible que le lien soit inverse. On a quelques exemples.
Inverse, c'est-à-dire que plus on fait d'enfants, plus on est déprimé.
Ben, dans les pays, c'est-à-dire, c'est pas on est plus déprimé individuellement, mais c'est ce qu'on font, ce qu'on peut appeler le repli sur la vie privée. Par exemple, quand le général ou maréchal Jaruzelski proclame l'état d'urgence en Pologne, 9 mois après, la fécondité polonaise augmente.
C'est pas parce qu'il y avait peu d'activités de loisirs.
C'est parce qu'il y a une fermeture de la vie publique, voilà.
Et je crois que l'on observe la même chose en France. Le baby-boom a débuté bien avant la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, le baby-boom démarre en... On a des traces de démarrage en 1938, donc pratiquement au moment où les accords de Munich et la crainte d'une guerre avec l'Allemagne sont les plus forts. Même actuellement, vous savez que les Français sont dans les enquêtes les plus pessimistes en Europe et même dans le monde. On a même prétendu qu'ils étaient plus pessimistes que les Afghans, mais je voudrais voir l'enquête exacte. Et en même temps, c'est eux qui ont la plus forte fécondité.
Et on parlait de Gaza pour le choix de la rédaction. La démographie à Gaza est particulièrement forte.
Oui, exactement. Gaza est un autre exemple. Alors pour Gaza, c'était dit dans le reportage, le taux de chômage est très élevé. Donc il est encore plus élevé pour les femmes. Or Gaza est le pays arabe où l'éducation est la plus avancée. C'est traditionnel d'ailleurs, la Palestine était le pays arabe le plus éduqué. Et donc les femmes n'ont pas d'autres ressources que se replier sur l'espace familial, sur l'espace du logement. Et là, elles font des enfants.
Et à contrario, lorsque l'on décide donc de limiter le nombre d'enfants, et cela semble être l'attitude générale si l'on vous suit, Hervé Le Braz, est-ce que on peut dire qu'on est face à des indices de transition vers la modernité? Parce que bien souvent, on associe une famille modeste avec une situation moderne. Est-ce qu'on a raison de faire association?
Je pense qu'il y a un prix Nobel d'économie, Gary Baker, a montré que, en fait, derrière la transition, il y avait le fait de préférer la qualité à la quantité, c'est-à-dire de préférer l'éducation des enfants, d'investir dans l'éducation des enfants plutôt que de faire beaucoup d'enfants, c'est-à-dire au lieu d'avoir le billet de loterie dont j'ai parlé tout à l'heure, d'avoir un capital qui s'appelle le capital humain.
Alors, il y a quand même une région du monde qui semble échapper à cette diminution du nombre d'enfants, c'est l'Afrique.
Alors, pas l'Afrique. L'Afrique, c'est trop général. C'est la partie de l'Afrique comprise entre les deux tropiques, c'est-à-dire c'est le Sahel et c'est l'Afrique équatoriale. L'Afrique équatoriale, c'est un continent, enfin c'est une partie du continent qui est riche et qui est très peu peuplée. Vous avez, si vous prenez la République centrafricaine, le Gabon, les densités c'est 10 habitants par kilomètre carré avec des possibilités formidables de développement. En revanche, le problème c'est le Sahel. Et c'est là qu'on trouve les plus fortes fécondités. C'est le Niger qui a, comme vous le savez, en tête avec 7 enfants et demi par femme. C'est pratiquement le seul pays où la fécondité n'est pas baissée depuis 50 ans. Dans tous les autres, y compris même dans des voisins comme le Burkina Faso, ça a baissé un peu plus au Sénégal, nettement plus au Ghana. Mais ce pays est à 7,5 enfants. Si ça continue dans les projections faites par les Nations Unies, ils sont à 20 millions, ils atteindront 70 millions en 2050 et 180 millions en 2100. C'est clairement impossible. Donc,
alors, il y a une campagne qui est menée au Niger actuellement pour diminuer le nombre d'enfants par famille. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ces campagnes, elles marchent?
Alors, la campagne qui pourrait marcher repose sur... ça ne marche pas beaucoup pour l'instant. La preuve, c'est qu'ils sont à 7 enfants et demi. En revanche, dans beaucoup de pays, y compris musulmans, la fécondité a énormément baissé. Dans un pays comme l'Iran, qui n'est pas un pays de modernisme idéologique formidable, c'était 6 enfants et demi en 1985. C'est 1,7 enfants par femme maintenant.
Donc, alors que la morale religieuse, elle n'a pas changé. Parce que là aussi, on a une vision sur le long terme. On sait comment, en Occident par exemple, on s'est arrangé avec cette morale religieuse. Le contrôle des naissants, il s'effectue comment? Les gens composent avec les règles dictées par la religion?
Oui, il n'y a pas la religion musulmane est quelque part un peu plus tolérante vis-à-vis du contrôle des naissances que la religion catholique. Il faut regarder ça de plus près. Mais
pourquoi?
En même temps, la révolution doit être dans la tête des personnes. En Iran, très clairement, cette formule de Baker, préférer la qualité à la quantité, a joué. L'Iran s'était enrichi avec le pétrole. Et puis, il y a eu la baisse de la rente pétrolière en 85. Donc, les enfants avaient été envoyés à l'université, dans les lycées, et le problème s'est posé pour les Iraniens. Est-ce qu'on fait plus d'enfants et on peut plus les envoyer à l'école, ou bien est-ce qu'on continue à soutenir ceux qui vont à l'école? Et ils ont baissé leur fécondité à toute vitesse, ce qui veut dire que dans un pays comme le Niger, il faut, c'est pas un effort mondial gigantesque, c'est 20 millions de personnes, donc il faut mettre le paquet, un plan Marshall, construire des lycées, parce que construire des lycées, ça veut dire envoyer les jeunes filles et les jeunes hommes au lycée, à un âge où on commence à avoir des relations sexuelles, et l'âge au mariage au Niger est extrêmement faible. Or, c'est un préliminaire. Les Chinois n'ont pas commencé par l'enfant unique. Mao, dès les années 60, avait interdit de se marier avant 25 ans pour les femmes et 28 ans pour les hommes. Alors, la Chine avait une possibilité de contrainte plus grande que le Niger, mais je pense que c'est à portée de la main maintenant de contrôler la fécondité en Afrique.
Oui, parce que les campagnes de contraception, ça c'est un classique en sciences sociales, on a l'habitude de montrer que généralement celles-ci échouent, Hervé Lebras.
Absolument, ça a été le cas par exemple en Inde, les campagnes non seulement ont échoué, mais ont conduit au renversement du gouvernement Gandhi, puisque c'était son fils Rajiv qui menait ces campagnes très violemment, et notamment des campagnes de stérilisation et pas simplement de contraception. Il faut vraiment que objectivement les individus sentent qu'ils ont intérêt à faire moins d'enfants. Et pour cela, c'est pas non plus extraordinairement compliqué, mais il y a des préliminaires. Et surtout, j'insiste, c'est actuellement, c'est assez peu de personnes. Si vous prenez, j'ai cité le Niger, c'est 20 millions. Autour, la fécondité reste très élevée, du Sénégal au Tchad. Mais si vous mettez tout ça ensemble, c'est 70 millions de personnes. Actuellement, c'est 1% de la population mondiale qui crée cette menace. Pour donner un autre chiffre, en 2050, d'après les Nations Unies, si ça continue au rythme actuel, les trois quarts de la croissance démographique seront causés par la croissance de cette bande d'Afrique entre les deux tropiques, par la croissance du Sahel et la croissance de l'Afrique équatoriale. Donc c'est devenu un problème local. Il y a une autre petite tâche, si on peut dire, ou hotspot, ou zone de forte fécondité qui subsiste, c'est l'Afghanistan, le nord du Pakistan, et puis un peu, c'est cette zone-là, le Tadjikistan, mais là c'est plus faible, on est autour de, même en Afghanistan, je sais d'ailleurs pas comment on le mesure, mais on est à 5 enfants par femme, et la baisse en principe a déjà commencé. Et au Pakistan aussi, on est à 4. En Inde, on est maintenant à 2,4 enfants par femme, et la baisse est rapide. Donc on va rejoindre le cas de la Chine. En Thaïlande, on est à 1,5 enfants par femme, par exemple.
Parmi les facteurs qui influencent la croissance démographique, on a donc évidemment le taux de fécondité que vous évoquez, et puis il y a aussi l'espérance de vie, bien sûr, et là, il y a beaucoup de modifications, Hervé Lebras.
Oui, il y a eu des gains d'espérance de vie absolument formidables. Si on prend des pays comme le Mexique, en une génération, l'espérance de vie est passée de 50 à 75 ans. C'est absolument énorme. Et il faut voir d'ailleurs que l'augmentation d'espérance de vie participe à la croissance de la population, parce que les personnes restent plus longtemps dans la population, si vous voulez. Vous pouvez donc avoir, tout le monde peut avoir en moyenne 2 enfants par femme, mais la baisse de l'espérance de vie fait augmenter la population.
Alors, si nous parlons aujourd'hui de ce thème, Hervé Lebras, c'est parce qu'on s'interroge au terme de la COP23, au terme d'un certain nombre d'interrogations sur la capacité du globe à nourrir les êtres humains. On s'interroge donc sur le caractère démesuré de cette croissance démographique. Et là aussi, c'est quelque chose auquel on songe depuis longtemps, depuis les années 70. On s'interroge sur notre aptitude à accueillir autant d'humains. Il y a juste la question de l'écologie qui s'est greffée de manière centrale à ce thème.
Oui, mais là, comme vous le constatez, au fond, les populations qui s'accroissent le plus sont celles qui consomment le moins et celles qui polluent le moins. Ce qu'on appelle maintenant l'empreinte écologique d'un habitant du Niger est excessivement faible. Le problème, dit, de la surpopulation est assez largement un problème de la consommation, pas simplement des pays les plus développés, mais aussi des pays émergents comme la Chine, comme le Brésil.
Parce que là, il y a une question quand même liée à la population et à la pollution en Inde ou en Chine.
Oui, c'est des questions, et puis à terme des questions liées à même à l'alimentation, aux subsistances. Mais ce n'est pas parce qu'on manque de subsistance ou qu'on manque de ressources, c'est parce que on a un type de consommation qui n'est pas soutenable pour la Terre. Je vais donner juste un chiffre en termes de subsistance et d'alimentation. Si toutes les populations actuelles du monde, les 7,6 milliards d'habitants du monde, mangeaient comme les Français, on ne pourrait nourrir que 4 milliards d'habitants sur la planète. En revanche, si on mange, c'est pas recommandable, mais comme les Nigériens ou bien comme les habitants du Bangladesh, à ce moment-là, on peut nourrir pratiquement 12 milliards d'habitants. Donc la variable importante, c'est le style de consommation, et c'est la même chose pour les questions de pollution, pour l'énergie, pour tous ces problèmes. Donc s'attaquer en disant la surpopulation, c'est ça la cause de nos malheurs, c'est faux, c'est clairement faux.
Mais ça veut quand même dire qu'il y a, et on le voit d'ailleurs parmi ces 15 000 scientifiques qui ont lancé un appel il y a quelques jours, il y a tout de même une part du discours malthusien qui est aujourd'hui beaucoup plus tolérée, et jadis dire, qualifier un discours de néo-malthusien, considérer donc que la Terre ne pouvait pas accueillir tant de monde, c'était disqualifier ce discours. Aujourd'hui, c'est moins automatique.
Alors, le discours malthusien, je dirais inversement, les Français ont toujours eu un discours populationniste. Ça, c'est lié à une longue histoire de la France, sa baisse de fécondité au 19e siècle. Mais la plupart des pays ont plutôt eu, disons depuis au moins 50 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un discours au contraire malthusien. Les Anglais ont toujours eu, d'ailleurs, puisque Malthus vient de là, ont toujours eu un discours malthusien, mais les Italiens, les Allemands sont aussi un discours malthusien. Donc c'est plutôt devenu la règle, le discours malthusien. Il reste quelques pays qui croient encore que leur puissance tient à leur population, et la France fait un petit peu partie de ce lot.
Et alors que en Europe, on a abandonné ce modèle.
Oui, complètement, et pour des raisons justement, alors pas simplement de pollution ou bien de subsistance, mais aussi pour des raisons d'occupation de l'espace. Et de plus en plus, l'espace fait défaut dans des pays comme l'Allemagne ou bien l'Angleterre, sans l'Écosse et tout, c'est 400 habitants par kilomètre carré, il reste plus beaucoup de place.
On va continuer à évoquer ce thème-là vers 8h20. Vous serez rejoint par Marion Guillou, qui est spécialiste des sciences de l'alimentation. On va évoquer ce thème qui est donc soulevé par l'appel de ces 15 000 scientifiques. Comment faire pour nourrir 10 milliards d'habitants en 2050, sont donc les prévisions des Nations Unies. On verra comment on peut adapter le modèle agricole à une croissance de la population mondiale.